les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Que ce soit sous l'angle de la question sécuritaire dans le discours des hommes politiques ou de celui des violences policières, la pratique des gardiens de la paix est depuis 3 décennies au moins sous les feux constants de l'actualité. Étonnamment, elle a pourtant longtemps fait l'objet d'un oubli de la part des historiens. « Que font les historiens de la police ?» s'interrogeait ainsi Vincent Millot en préambule d'un ouvrage paru en 2008 intitulé « Métiers de police », consacré à l'histoire de la fonction en Europe du XVIIIe au XXe siècle. Et de rappeler que la tendance s'était toutefois inversée au XXIe siècle, l'institution policière faisant désormais l'objet d'un intérêt constant et renouvelé. Le 20 avril 2009, pour les Lundis de l'Histoire, Michel Perrault recevait 3 chercheurs œuvrant dans ce champ. Jean-Marc Berlière, spécialiste et pionnier dans ce domaine, Geneviève Pruvot, qui venait alors de faire paraître un ouvrage sur l'histoire de la féminisation de l'institution, et enfin Dominique Khalifa, l'un des coordonnateurs du livre « Métiers de police », qui s'était également intéressé à la question du maintien de l'ordre dans son dernier ouvrage, consacré au bagne de l'armée coloniale française. L'émission est l'occasion de réentendre cet historien disparu en septembre 2020, spécialiste de la Belle Époque, de l'histoire de la presse et du crime, qui travaillait, dans le champ de l'histoire culturelle et des imaginaires sociaux, à des objets tels que les bas-fonds, le personnage de Fantomas, ou encore les chrononymes, ces noms attribués à des périodes de l'histoire. Le plaisir qu'il prenait à la transmission de son savoir s'entend à chacune de ses interventions, dans cette conversation menée par celle qui avait aussi été, autrefois, sa directrice de thèse.
Les Lundis de l'Histoire, Michel Perrault, bonjour. Eh bien bonjour, nous évoquerons ce matin quelques-uns des aspects de l'histoire du maintien de l'ordre, chapitre essentiel de nos sociétés et de notre actualité. Il est ordinairement l'affaire de la police, dont l'histoire s'est beaucoup développée depuis quelques années, et plus rarement, heureusement, de l'armée, qui n'intervient dans la cité que dans les cas graves proches de la guerre civile. Mais l'armée est une forteresse dont la discipline fait la force, comme chacun sait. Elle a ses tribunaux, ses prisons, ses bagnes, dont Biribi, célèbre mais oublié, a été au XIXe siècle, et encore au début du XXe siècle, la forme principale. Dominique Khalifa, professeur à l'université de Paris 1, vient de lui consacrer un livre remarquable. Biribi, les bagnes coloniaux de l'armée française, vient de paraître chez Perrin. Il est aujourd'hui mon invité. Avec Geneviève Pruvot, chargée de recherche au CNRS, au CESDIP, et auteur d'une étude pionnière de la sergote à la femme flic, une autre histoire de l'institution policière, 1935-2005, et qui vient de paraître à la découverte. Et puis avec Jean-Marc Berlière, professeur à l'université de Bourgogne à Dijon, membre important du CESDIP, et vous êtes Jean-Marc Berlière, initiateur, on peut le dire, et grand maître, si j'ose dire, de l'histoire de la police. En 1991, vous lui avez consacré votre thèse, l'institution et la société policière sous la Troisième République, 1870-1914, qui a été à l'origine de très nombreuses publications que je ne peux naturellement toutes énumérer. La police des mœurs, le préfet Lépine, le monde des polices, les policiers français sous l'occupation, en 2001, et bien d'autres. Et vous avez fait beaucoup pour nous faire connaître les institutions et les hommes également, avec toutes les thèses que vous avez dirigées à l'université de Dijon. Aujourd'hui, avec Dominique Khalifa, Catherine Denis et Vincent Millot, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes et que je salue ici, vous publiez un ouvrage collectif intitulé « Métiers de police ». Être policier en Europe 18e-20e siècle, qui est paru aux presses universitaires de Rome, de Rennes, pardon, pas de Rome, et qui est une somme à la fois synthétique et comparative. Mais tout ça montre que depuis, disons, 15-20 ans peut-être, l'histoire de la police est formidablement développée. Et lors de votre soutenance, Jean-Marc Berlière, vous disiez que l'histoire de la police est un objet perdu des sciences sociales. Et vous la qualifiez de trou noir de l'historiographie. Alors, pourquoi c'était comme ça? Et pourquoi est-ce que c'est comme maintenant? Pourquoi ça a changé?
Oui, vous faites bien de rappeler le désert dans lequel j'ai osé pénétrer avec beaucoup d'insouciance, je dois le dire, au début des années 1980. Pourquoi ce désert? Eh bien, d'abord, l'histoire n'était pas seule concernée, hein, je dois bien le dire, puisque la sociologie française dans le domaine policier avait un retard également considérable, bien plus important encore que l'histoire, vis-à-vis notamment des recherches anglo-saxonnes et particulièrement d'ailleurs nord-américaines. Alors, je pense que ce trou noir historiographique, si vous voulez, puisqu'on va faire de l'histoire, a deux grandes origines, hein. Il y a deux grandes responsabilités. Elles sont très partagées. La première, c'est celle d'un monde universitaire, rappelons un félidé domestique, un chat, qui n'était que très mal ou pas du tout acculturé à un objet dont Dominique Monjardel, sociologue, allait dire qu'il était un objet sale. J'entends par là, soyons clairs, que la police, eh bien, était un objet, on aurait dit à l'époque, enfin quelques années plus tard, incorrect politiquement, et qui de ce fait perdait, j'allais dire, pratiquement toute légitimité scientifique, parce que c'était la répression, et que s'intéresser dans l'archéo-marxisme qui caractérisait encore, hélas, une partie de l'université française de l'époque, s'intéresser au chenil du capital, comme on disait, ça paraissait tout à fait inquiétant, et moi j'ai pendant longtemps subi ce genre de réflexion. Tiens, quel curieux sujet, pourquoi travaillez-vous sur un sujet pareil? Et puis, il faut bien dire les choses, l'institution elle-même n'était pas très ouverte, c'est le moins qu'on puisse dire, à des études et à des regards scientifiques.
Oui, la police pleine de malice ne tenait pas toujours à ce qu'on fasse son histoire.
Fouché le disait déjà, hein, au début du 19e siècle, la force de la police c'est qu'on ignore ses faiblesses. Et je crois que, d'une part, les responsables de l'institution n'avaient aucune envie de voir étaler sur la place publique des choses que l'on connaît bien. C'est-à-dire que, et pour maintenir la loi, il faut parfois la violer. Et ils n'avaient pas non plus envie de voir étaler un certain nombre de pratiques dont ils savent bien qu'elles ne font pas honneur à la démocratie. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Par ailleurs, ils imaginaient que forcément ce regard serait essentiellement politique. Politique et uniquement critique. Alors ça avait une conséquence très grave, évidemment, ce refus au projet de connaître, comme dit Jean-Paul Brodeur, un sociologue canadien, c'est que les archives étaient partiellement fermées. J'ajoute que ces archives, parce qu'elles sont un butin, un objectif de guerre, ont subi un certain nombre de naufrages. Vous avez rappelé fort gentiment le sujet de ma thèse tout à l'heure. Je m'étais arrêté en 1914 parce que, eh bien, d'abord, je pouvais pas aller avant parce que les archives avaient été détruites, notamment à Paris, dans l'incendie allumé par les communards pendant la semaine sanglante, donc tout ce qui était antérieur à mai 1871 avait grandement été détruit. On recommence début septembre 1914 parce qu'on voit les Uhlans et les hussards allemands des fortifications, on imagine que la ville va être prise, et on recommence d'ailleurs en 1940, et là la ville a vraiment été envahie, et on détruit massivement, on oublie de détruire, ce qui est encore plus grave, des archives dont les Allemands s'emparent. Alors, ce qui fait que pour travailler...
Il y avait certains fichiers qui ont été récupérés par les Allemands.
Absolument, et donc c'était, si vous voulez, extrêmement difficile de travailler. Alors, choses ont complètement changé, comme vous l'avez dit, depuis une bonne dizaine d'années, une bonne peut-être 15 ans, hein, parce que les deux camps ont bougé. D'abord, et ça, vous ne pouvez pas imaginer avec quel plaisir j'ai constaté ce genre de choses, eh bien, sont arrivés dans le champ de la recherche tout un tas de jeunes gens et de jeunes femmes qui n'ont plus du tout les tabous, les préjugés qu'avaient leurs aînés ou leurs prédécesseurs.
Ça les intéresse, au contraire, au premier chef. Oui.
Et effectivement, ils se demandaient bien comment un objet aussi passionnant, qui est un biais très intéressant pour étudier l'État, la société, pouvait être aussi méconnu. Alors on a vu une floraison de thèses et de recherches toutes plus brillantes et intéressantes les unes que les autres, qui vont des gardes champêtres à la gendarmerie, en passant par la dernière thèse soutenue, les rapports de la police parisienne, et sur le longtemps, pas seulement sur le 17 octobre 1961, avec ce que l'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'institution a fini quand même par bouger. Je me flatte parfois d'imaginer que j'y suis pour quelque chose. Je suis pas tout à fait certain. Mais en tout cas, pendant longtemps...
C'est plus que certain.
Pendant longtemps, j'ai essayé d'expliquer à tous ces gens que dans une démocratie, la police, et Dieu sait si c'est important, parce qu'elle menace les libertés, mais elle est en même temps le meilleur rempart de ces libertés, et bien, et la meilleure protection de la démocratie, avait tout intérêt à ouvrir les fenêtres, à ouvrir les placards.
Et vous avez rencontré un écho.
Alors, des échos, on va dire, variables. Vous savez, ça me rappelle un peu la politique menée au Royaume-Uni. On parlait de stop and go, c'est-à-dire que par moment, il y avait de véritables ouvertures, de véritables encouragements, puis brutalement, et évidemment, une alternance démocratique faisait qu'arrivait en charge des affaires policières, à quelque niveau que ce fût, des gens qui avaient d'autres idées ou des préventions, et tout était à refaire.
Et sans entrer dans le détail, j'imagine que la conjoncture politique compte dans ce domaine-là. Peut-être pas.
Pas forcément. J'ai été très surpris, effectivement. On pourrait imaginer, là encore, soyons clairs, que la gauche aurait une attitude d'ouverture plus importante. C'est pas systématique. Mais en tout cas, évidemment, les choses ont terriblement bougé. Juste pour vous en donner deux exemples qui sont très récents et finalement bien de bons indicateurs. Il se trouve que très récemment, puisque je viens de rendre le travail qu'on m'a demandé, la direction de la formation personnelle au sein de la police nationale m'a commandé un polycopier, on va appeler ça comme ça, un cours sur l'histoire de la police, ce qui est complètement, vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, c'est la révolution. Et non seulement, évidemment...
Et ce cours est destiné à la formation de futurs policiers.
Absolument, des gens qui préparent les concours. Et ça, c'est vraiment un tournant, d'autant que vous l'imaginez bien, je ne fais pas une histoire dorée, rose, de belles légendes. Les enfants ne sont pas nés dans les choux, dans les roses. Ils ont eu la gentillesse de me dire que c'est passionnant, on découvre complètement notre histoire.
Vous leur avez fait des cours, peut-être aux futurs policiers.
Absolument, je suis intervenu pendant longtemps et j'interviens à nouveau dans la formation. Et puis le deuxième exemple que je voulais vous signaler, parce que je trouve qu'il est j'en suis très fier en plus. Il faut être clair, une des choses les plus pénibles et les plus sensibles dans la mémoire policière, même s'ils l'ont oublié pendant longtemps, c'est bien sûr le rôle joué par la police française dans les répressions raciales pendant l'occupation. Il y a un véritable déni pendant très longtemps. Ce sont les Allemands, c'est la Gestapo. Enfin, regardez les plaques qui sont dans les rues parisiennes, sur les écoles et autres. Et les choses, pour vous dire, alors on doit ça à un préfet de police qui n'est plus en poste, qui était d'ailleurs un ancien directeur général de la gendarmerie, mais le préfet actuel a continué l'expérience. Imaginez un petit peu la scène. Toutes les promotions qui sortent des écoles de formation de gardiens de la paix de la région parisienne, ça représente quand même 1500 gardiens de la paix par an, viennent par escouade, j'allais dire d'une centaine, au mémorial de la Shoah, et pendant une journée, commence la matinée par la vision d'un documentaire que j'ai écrit, qui s'appelle « La police des années noires » et qui est très dur. Je peux vous dire qu'ils y sont déjà largement traumatisés. Ensuite, une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui a été arrêté par des policiers ou des gendarmes français et qui a été déporté, raconte son itinéraire. Et puis ensuite, moi j'interviens comme historien, et puis il y a des questions et autres. Et bien, je peux vous dire que ça complètement changer les choses. Oui, ça bouleverse énormément des policiers qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des rapprochements, évidemment,
c'est avec à la des fois situations contemporaines. C'est à la fois un signe et un moyen. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Khalifa, Geneviève Prouveau, de tout ce que vient de dire Jean-Marc Berlière? Vous en êtes les témoins, vous aussi. Vous en êtes le produit un peu, Geneviève Prouveau aussi.
Oui,
l'actrice.
Oui, moi, sans Jean-Marc Berlière ni Dominique Monjardet, je n'aurais pas pu commencer cette recherche. Mais moi, c'est en toute naïveté aussi que je me suis lancée dans cette opération, parce que je cumulais avec ce sale objet un autre handicap qui était que je travaillais sur les femmes, donc la féminisation de la police, mais on y reviendra.
Dominique,
je crois que Jean-Marc a très bien montré qu'on est vraiment à un moment historiographique, les choses ont beaucoup changé, et je crois que le livre Métier de police que nous publions aux Presses de Rennes, et je voudrais quand même dire là que Vincent Millot, qui a joué un rôle vraiment fondamental pour porter ce projet, ce bouquin rend vraiment compte de l'ébullition et de l'effervescence incroyable qu'il y a depuis quelques années autour de ça. C'est un gros livre qui me semble rendre compte de tous ces déplacements que Jean-Marc vient de dire, c'est-à-dire on est vraiment sorti d'une histoire institutionnelle de la police pour rentrer dans une histoire des pratiques, du métier, des savoirs dans l'ensemble de leurs composantes, c'est-à-dire d'une vraie histoire sociale de la question. Puis il y a d'autres déplacements chronologiques. Jean-Marc évoquait effectivement la nécessité de sortir des cloisonnements chronologiques. Et je crois que ce livre qui envisage la question depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'au XXIe est vraiment, vraiment fondamental. Spatial, c'est une approche comparée, et puis surtout pluridisciplinaire, parce que nous, historiens, nous y sommes confrontés au regard des sociologues, au regard des juristes, aux travaux des politistes également, pour vraiment montrer que cet objet police, là, aujourd'hui, il vibre de façon différente, et il y a une vraie inflexion de nature
important.
Historiographique et de nature épistémologique qui est vraiment fondamentale, et Jean-Marc rappelait vraiment bien.
Dominique a tout à fait raison, j'allais y venir. Le symbole de ce changement est effectivement la publication de ce livre. Non seulement le livre, mais tout ce qui l'a précédé, c'est-à-dire l'organisation d'un colloque pour lequel nous avons dû refuser plusieurs dizaines de propositions. Nous voulions que, le livre et le colloque s'inscrivent dans un temps long, quatre siècles et demi, et sortent de France, et on a dû se limiter à l'Europe, mais en réalité on a eu des propositions, et c'est passionnant. En ce moment, je suis en train de travailler avec des Sud-Américains et des gens d'Inde, des Asiatiques, et qui ont des histoires, notamment parce que ce sont des polices quelque part coloniales, parce que l'un des grands sujets passionnants dans toute cette affaire, et qu'enfin on peut aborder maintenant, parce qu'avant on ne pouvait pas, quand on est deux ou trois sur le champ, c'est ce travail sur les modèles et la circulation des modèles. Alors, Dominique a insisté, puis j'insiste aussi, effectivement, sur le rôle de Vincent Millot. Je dois dire que l'arrivée...
Et
nous signalons d'ailleurs, pour rendre quand même à l'Université de Caen un de ses plus beaux produits, qu'il est professeur à l'Université de Caen. Et non pas de Rennes. Il se trouve que Vincent Millot, je regarde d'oublier Catherine Denis et Vincent Denis également, qui enseigne à la Sorbonne, ont apporté dans ce qui était alors le trou noir du trou noir, c'est-à-dire la police d'Ancien Régime. Vous savez, on connaissait le lieutenant général de police, puis on savait pas grand-chose d'autre.
C'est-à-dire que, si je peux faire... on utilisait souvent la police comme source pour l'histoire sociale ou pour l'histoire, les travaux d'Arlette Farge sur le 18e. Mais c'est vrai que l'institution policière elle-même, telle que vous la prenez à bras-le-corps, ça, c'était moins abordé.
Bien sûr, et c'était quand même étonnant, parce que toute révérence gardée, ces grands historiens dont vous venez de citer l'une, travaillent donc sur un matériau dont ils ne peuvent pas faire la critique, puisqu'ils ne savent
les conditions
pas
de production.
Qui sont les producteurs. On ne savait rien de ces policiers d'Ancien Régime. Maintenant, nous avons des études formidables sur des commissaires du Châtelet, et puis il y avait tout ce problème, vous savez, Michel Perrault, qu'on ignorait complètement, qui était celui de la Révolution française. Comment cette police d'ancien régime disparaissaient, dans quelles conditions, comment. Et je dois dire par exemple que Vincent Denis est en train de nous montrer qu'il se passe en 1789-90 quelque chose d'étonnant, où on voit des bourgeois prendre en main leur propre police, c'est-à-dire la police passer dans la main de non-professionnels, mais qui font ça de façon terriblement professionnelle. Et ça me rappelle un petit peu la période de la Libération, vous savez, quand on voit fleurir des milices à prétention policière, etc.
Un beau livre, donc, un livre somme, en quelque sorte, qui fait le point, qui ouvre beaucoup de pistes. Et je veux en rappeler le titre, Métier de police, être policier en Europe, 18e, 20e siècle. Et c'est paru aux presses universitaires de Rennes, donc. Et vous en êtes, Dominique Khalifa, Jean-Marie Berlière, avec Vincent Millot, Catherine Denis, les organisateurs. Et il y a une introduction de Vincent Millot, justement, qui est avec vous, enfin. Oui,
qui est un formidable travail. Alors, je dois dire que Vincent Millot a appris beaucoup sur l'histoire de la police et sur l'historiographie en l'écrivant. Et vous qui avez connu ces épisodes, c'est intéressant de voir qu'il y a comme ça une espèce de production décennale. Le premier colloque historique qui parlait de police, c'est le fameux colloque de 1986 ou 7 à Nanterre, monté par la société 1848. Ensuite, maintien de l'ordre en Europe. Et ensuite, 10 ans plus tard, nous organisons, grâce à l'IHTP qui était mon équipe de l'époque au CNRS, et puis l'IESI, un colloque qui se tient à l'IESI à Paris et qui nous permet d'inviter quelques-uns des spécialistes étrangers. C'était quand même la première fois qu'on en entendait parler de la police politique japonaise, par exemple, au XXe siècle. Ouais.
C'est très intéressant, FBI, la comparaison des modèles.
Absolument. Très et donc, écoutez, 10 ans plus tard, il était temps. Puis, alors, la chose la plus formidable, c'est que il y a un énorme rajeunissement démographique, parce que au colloque de Paris en 1996-97, je devais être un des plus jeunes, c'est vous dire, alors que là, j'étais franchement l'aîné. 10 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a un 109,
et ça, c'est formidable. Et ça, c'est formidable. Le 109, puisque vous en parlez, je me tourne vers Geneviève Pruvot, qui vous venez de nous donner un livre très, j'ai dit pionnier, enfin véritablement, qui s'inscrit donc dans ce champ de l'histoire de la police. Je voudrais en rappeler le titre, De la sergote à la femme flic, une autre histoire de l'institution policière, 1935-2005. Et c'est paru donc à la Découverte en 2008. Alors, Geneviève Pruvot, pourquoi et comment ce travail? Pourquoi vous avez pris ce sujet? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Et puis vous allez nous faire part de votre découverte du sujet.
Bah écoutez, moi je suis sociologue, donc je n'étais pas censée explorer aussi longuement la partie historique qui est que j'ai édité dans ce livre, puisqu'en fait ce livre est issu de ma thèse qui est faite en deux volets, un volet plus sociologique, contemporain, ethnographique, fondé sur des entretiens, des enquêtes, et puis un volet historique.
Et au fur et à mesure. Très important.
Et qui, en fait, a pris une place gigantesque. Oui. Et c'est vrai que la raison de cette place, c'est parce que j'étais justement la première à l'explorer et à l'autonomiser aussi, puisque la féminisation de la police pouvait être abordée, mais de façon pas en tant que telle. Donc, je me suis engouffrée. Une fois qu'on commence les archives, on n'arrive plus à s'arrêter. Surtout
avec quelles archives avez-vous travaillé?
Alors j'ai travaillé avec les archives de la préfecture de police, ce qui pour moi, ce qui est plutôt logique, puisqu'il se trouve que la féminisation de la police, la première qui est vraiment lieu et qui a servi de modèle précisément à toutes les autres féminisations dans d'autres villes, c'est celle de Paris. Donc là, pour le coup, l'accessibilité des archives rencontrait une réalité historique pour moi. Donc là, je me suis fondée donc sur les archives de la préfecture de police. Et puis aussi, parce que je remonte jusqu'à la période contemporaine, les années 70, une quête très très complexe dans les armoires. Parce qu'on a des dossiers ou des rapports qui sont pas, que les policiers estiment ne pas avoir à donner précisément aux archives. En même temps, ils ne les ont pas encore jetés. Et puis, je change tout le temps de bureau. Donc je suis aussi partie aussi en quête de ces de ces rapports. Bon, puis après il y a les archives. Enfin, j'ai fait aussi une histoire de des
est-ce
lois,
que, est-ce
des
que,
décrets.
Oui, vous avez fait une histoire des.
Donc
oui.
Là, c'est beaucoup plus simple. C'est,
oui, dans le voilà, presse. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour accéder aux archives finalement très contemporaines?
Écoutez, là,
et comment c'est... avez-vous été reçu quand vous avez dit que vous faisiez
Mais très bien,
là-dessus.
Parce que je pense qu'il y a des cycles, en fait, et que cette thèse a commencé d'abord par un débat, enfin, disons en 2000, 1999-2000, et qu'à cette période-là, les premières femmes policières avaient fait carrière. C'était une histoire qui n'était plus une histoire tabou, ça devenait une histoire glorieuse. C'était à la fin d'un cycle de féminisation, à la fin aussi d'un processus de contrôle, même s'il demeure, de cette population, puisqu'il n'y avait plus de quotas restrictifs. Et donc, il y a eu les hommes et les femmes témoins de cette période se sentaient autorisés à témoigner. Oui. Donc, je pense que là, ça, c'est assez important. Plusieurs m'ont dit, vous seriez venu 10 ans avant, je vous aurais pas parlé.
Ah oui, on vous a
voilà.
dit ça.
On oui,
vous
a on, dit ça. On me l'a dit. Il y a quelques, je pense que là, je suis venue à un moment,
un bon moment
où c'était possible. Et aussi, donc, j'ai pu expérimenter l'extrême diligence, en fait, des policiers qui, malgré tout, en dépit du certain flottement dans où se trouve quoi, se sont quand même mis en quatre pour me trouver les rapports dont j'avais besoin. Mais donc, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu publier cette première partie de ma thèse, c'est qu'étant la première et pionnière sur ce terrain, comme aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, ils sont bien une vingtaine à travailler sur l'histoire de la féminisation policière. Moi, je suis toute seule et il y a un devoir de restitution assez entier de ce que moi j'ai trouvé pour qu'on puisse retravailler.
C'est très intéressant ce que vous dites.
Ça me semble important parce que pour donner envie à d'autres d'y travailler et puis aussi que les historiens de chacune des périodes que j'ai abordées se réemparent de l'objet.
Oui, voilà. Et on voit bien à travers ce que vous dites, mais c'est presque en même temps une question que je vous pose. La police pose la question du genre en définitive, des rapports masculins-féminins.
Tout à fait. Non, c'est vrai que je suis aussi arrivée à un moment où la sociologie, l'histoire de la police, si je puis me permettre, il me semble oublier quelque chose qui était que c'était pas juste le monopole de la violence légitime, pour reprendre le terme weberien, mais c'était un monopole masculin. Et travailler sur la police, c'était travailler sur un métier d'homme, là même un métier d'homme pilier dans la division sexuelle du travail anthropologique avec l'armée. Oui. Et donc, si autant dans l'armée, il y a eu plus bien avant ce travail des réflexions faites sur le genre de l'armée ou le sexe de l'armée puisque là enfin mais un 5-6 ans avant un petit peu plus moi pour ma part c'est vrai que quand j'ai travaillé sur ce sujet Dominique Monjardet n'était pas immédiatement convaincu
voilà. Dominique Galifa
oui dans le livre de la philosophe Hélène Le Yeig qui est paru en 2001 si mon souvenir est bon s'appelait
très intéressant l'œil de la police
non. S'appelait haute police basse politique
voilà.
Hélène Le Yeig part d'un certain nombre de figures mythologiques Argus Hercule Protée pour essayer de voir effectivement comment elle s'articule à des conceptions, à des pratiques de la police, mais des figures très masculines. Et je crois effectivement qu'à vous lire aussi, on comprend combien l'activité policière est liée au corps, a été si longtemps liée au corps masculin et aux attributs physiques des hommes. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel je trouve que votre livre est très, très important, de montrer comment tous ces combats effectivement de féminisation, c'est aussi une façon effectivement d'opposer un modèle alternatif à cette idée d'un corps policier qui soit uniquement un corps masculin.
Oui, Jean-Marc Berlière.
Oui, on sentait tellement d'ailleurs les quelques historiens ou les gens qui s'intéressaient à la question qu'il y avait là une vraie lacune. Mais vous savez, c'est comme quand on se retrouve devant la baie du Mont-Saint-Michel avec un petit saut en plastique. Il y avait tellement de sujets sur la police que moi je rêvais que quelqu'un s'occupe des femmes. Et quand on a lancé un recueil de récits de vie de policiers retraités, donc on a commencé en 1991-92, j'avais été frappé justement par la demande de deux ou trois de ces dames qui avaient été policiers ou policières. Elles avaient commencé apparemment sous l'occupation et puis une d'entre elles, je me souviens très bien, à Grenoble, à la Libération. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut se dépêcher, il y a là quelque chose. Et dans les entretiens, on avait fait une espèce de guide d'entretien, c'était très très ouvert, mais une espèce d'entretien semi-directif, on posait systématiquement la question aux policiers, comment ils avaient ressenti, comment ils voyaient l'entrée des femmes dans la police. Oui. Et la réaction à l'époque, donc début des années 90, sont des policiers qui sont déjà en retraite, hein, ils étaient terriblement hostiles, méfiants. Ça ne pouvait pas être un travail d'homme. De femme, bien sûr.
Oui, oui. Mais votre livre est passionnant hein, sous l'angle du genre, parce que ce que vous montrez bien, c'est l'espace public, c'est les hommes, plus on va, et les armes, le problème des armes, ça c'est très très important, et on voit que même encore aujourd'hui, le cœur de la police, si l'on peut dire, les CRS, hein, continuent de poser tout de même des problèmes à l'entrée des femmes. Bon, mais je reviens, donc c'est un livre qui, en dehors de son contenu, j'allais dire factuel, a des résonances beaucoup plus importantes sur tous les rapports masculins-féminins, mais je reviens à votre livre. Le processus, comment ça s'est passé? Vous avez, depuis 1935, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait, cette féminisation?
C'est déjà l'objet, c'était une découverte pour moi, c'est l'objet d'une lutte politique, c'est-à-dire que les associations, déjà ce n'est pas une initiative policière, parce qu'on pourrait imaginer que la police veuille se doter, améliorer son champ d'action en recrutant des femmes. Donc ce n'est pas une initiative policière et ça ne le sera pas tout au long du siècle. C'est donc travailler sur la féminisation de la police, c'est travailler sur l'histoire du féminisme. Parce que pas tout le féminisme, ce qui va ensuite donner lieu au féminisme d'État, mais le féminisme réformiste et notamment les féministes qui militent pour le droit de vote. C'est-à-dire qu'en fait, les associations qui militent pour le droit de vote militent pour ce que moi j'ai appelé le droit de police, donc qui rentre dans un grand projet.
Et cela très tôt.
Et cela vraiment très très tôt. Hein,
dès les années
30. Parce qu'en fait, les Anglaises notamment sont pionnières dans cette féminisation de la police et aussi dans l'action en militant pour le droit de vote. Et il y a énormément de liens entre les associations féministes anglaises et françaises. Notamment via la Société des Nations, où justement là, le cœur de la militance en faveur du droit de police, c'est aussi que la police se féminise. Pas n'importe quelle police, la police des mœurs, puisqu'en fait,
oui,
la cause abolitionniste et la féminisation de la police font cause commune, en fait.
Ce que vous montrez bien, c'est que au début, les femmes arrivent, enfin, on en prend des femmes dans la police, mais pour des tâches spécifiques tout de même. Elles font pas absolument la même chose que les hommes.
Alors, pas du tout.
Une longue période.
Je parlais justement des femmes qui viendraient s'occuper, mieux traiter les prostituées, mais il se trouve, et puis Jean-Marc Bellière le sait très bien, son livre m'a été extrêmement précieux, mais que la police des mœurs, ça fait partie d'un bastion qui n'est pas attaquable pendant toute cette période-là. Donc il y aura un infléchissement de l'argumentaire, puisqu'elles ne peuvent pas rentrer dans cette fameuse police des mœurs, qui est la sensibilité croissante à l'enfance. Va offrir un nouvel argumentaire, et donc ça va être pour s'occuper des jeunes filles et des jeunes garçons mineurs déambulant dans les rues.
Oui, c'est ça. Voilà. Autrement dit, elles ont d'abord des tâches, on dirait presque, d'assistance sociale.
Ben, Ce sont des assistantes sociales.
Et alors, malheureusement, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais à partir de quel moment elles font la même chose que les hommes? Elles sont policières.
Les années 70.
Les années 70.
Voilà, toutes les années 70.
Et est-ce que ça a été le fruit de mesures, je ne sais pas moi, propres à la police ou de mesures d'État?
Alors, il y a je dirais que le principe des concours à la française est assez utile dans la progression des femmes dans ces métiers d'hommes, parce que elles passent le même concours, même si elles sont sursélectionnées, et à ce titre-là, elles vont pouvoir revendiquer le fait d'avoir accès aux mêmes tâches. Et donc l'État intervient, si je puis dire, au niveau des concours, finalement en leur offrant la même possibilité de passer le concours, même si après, hein, encore une fois, il y a des quotas, elles sont sélectionnées. Et après, c'est localement.
Oui.
Localement, comme elles sont en minorité, mais elles sont sursélectionnées, elles ne veulent pas faire un métier de femme en rentrant dans la police, elles vont réussir à, je dirais, de façon discrète, mais lente et sûre, à s'intégrer dans toutes les brigades qui leur sont fermées.
Oui. Alors, ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a des moments, quand même. Les années Giscard, il s'est passé un certain nombre de choses. Oui. Au moment des années Giscard, c'était important. Et puis alors, quand la gauche arrive au pouvoir, il y a quand même une femme qui se bat beaucoup pour ça, c'est Yvette Roudy.
Oui.
Elle est assez elle est battante. Là,
bah, Yvette Roudy s'inscrit dans, dans ce qui s'est fait auparavant, puisqu'elle féminise le dernier concours qui restait, qui est un concours très lié d'ailleurs au CRS, c'est pour ça qu'il résistait. Et elle, elle va faire quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'elle va changer la nature des quotas, puisque jusqu'ici, il y avait des quotas restrictifs.
Oui, c'est ça, il faut bien dire. Oui. C'est ça.
Donc, parce que faire une histoire de la féminisation de la police, c'est faire une histoire des professions fermées aux femmes, et anticonstitutionnellement, et donc aussi tous les biais juridiques qu'on invente pour pouvoir justifier que les métiers restent des métiers d'hommes. Et il y avait ces fameux quotas restrictifs qui touchent aussi l'armée. Et donc, elle va transformer la nature des quotas en faisant des quotas incitatifs. Ce qui, pour elle, vu qu'elle, pour la parité à terme, est un laboratoire, je dirais, la police, de ce point de vue-là. La conséquence, en revanche, ça va être, du coup, des quotas officieux qui vont se mettre en place par le biais des épreuves sportives.
Oui, et dans votre livre, vous racontez qu'il y a toujours des moyens d'éliminer les épreuves, la taille.
Oui.
Alors, toutes les histoires de la taille, ça, c'est vraiment drôle, parce que on l'augmente, on la diminue selon un peu les besoins. Et vous citez quelque chose d'Yvette Roudy que j'ai trouvé très drôle, et qu'ailleurs, elle a peut-être eu l'occasion de raconter ailleurs. Elle dit, mais quand je voulais des femmes dans les commissariats, les gens de la police disaient, mais nos femmes ne seront pas contentes de voir arriver des femmes dans les commissariats. Elle raconte ça dans ses mémoires.
Ben, c'est vrai que travailler sur la mixité au travail, plus largement, et dans un métier qui implique une promiscuité, un rapport au corps singulier, on s'habille, on
c'est
se déshabille, et puis le corps
est
l'outil de travail principal, puisqu'avant d'utiliser la force, on doit avoir une stature dissuasive qui permet de ne pas l'utiliser ou qu'en ultime
bien
recours.
Sûr,
donc
sûr.
Le corps, c'est avant même la force.
On ne peut pas le nier, le corps.
Ah non,
sûr.
C'est même, je pense, le cœur du métier, en fait.
Oui.
La
oui.
démonstration de force avant son usage proprement dit. Donc, est-ce que les femmes ont le bon corps pour exercer
C'est un vrai problème.
C'était l'enjeu de la fermeture.
Absolument, oui. Voilà. Et Geneviève Pruvot, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, grosso modo, où en est-on? Quel est le pourcentage de femmes policières?
Elles sont
16%.
Donc c'est une augmentation très très régulière, je dirais d'1% tous les deux ans, depuis les années 70. Et elles sont là, elles vont devoir faire face à une évolution, puisque faire l'histoire, encore une fois, la féminisation de la police, c'est faire une histoire de la police elle-même. Hein. Parce qu'en fait, à chaque arbitrage dans les réformes policières, on se pose la question des femmes. Et là, notamment...
À chaque réforme, oui.
Parce que qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça va les faire augmenter ou pas? Et là, la question, c'est la disparition, l'amenuisement des concours externes pour l'augmentation des concours internes. Donc le concours de commissaire, le concours d'officier. Et donc quand on augmente la part de concours internes, c'est-à-dire qu'on diminue nécessairement, là c'est toute l'histoire du travail féminin qui le montre, la part des femmes. Et l'une des raisons pour lesquelles les femmes, de façon très atypique, accédaient à des postes de commandement dans la police, c'est parce qu'elles pouvaient y entrer directement par le concours externe. Et donc là, on peut imaginer que l'augmentation du concours interne va faire baisser la part de femmes.
Alors,
la faire stagner toujours.
La faire stagner.
Voilà.
Dernière question, peut-être sans réponse d'ailleurs. Est-ce que l'entrée des femmes dans la police change la police ou est-ce que ça n'a pas de sens?
Moi, je pense que la police, c'est un marteau, pour reprendre la formule de Dominique Monjardet. Et donc, ce qui fait la police, c'est la personne qui va aussi actionner le politique qui actionne le marteau. Donc, on peut pas séparer la police évidemment de sa pratique et des personnes des policiers eux-mêmes, mais à mon sens on a introduit un brassage plus grand en introduisant les femmes dans la police, mais d'une part elles sont sélectionnées, elles sont recrutées, et les femmes policiers proposant une police alternative ont aussi peu voix au chapitre que les hommes policiers qui le feraient. Donc ça reconfigure des clans à l'institution de la police, mais ça ne constitue pas en soi un gage de transformation de l'institution.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Vous avez...
Je voulais juste dire que donc je fréquente des femmes policiers, notamment des gardiens de la paix ou des gardiennes de la paix, dans ces fameuses sessions de formation, de sensibilisation à la Shoah. Et le peu que je... Alors d'abord, elles sont très impressionnantes physiquement. Je suis petit et je suis tout petit au milieu de ces femmes. Mais en plus, elles se revendiquent pas comme femmes du tout. Elles ne veulent pas du tout que leur... Elles sont capables de courir autant.
Elles sont
absolument. Et ça, elles y tiennent terriblement.
Pour elle, ça représente une telle bataille d'arriver à ce, dans ce corps.
Il y a deux évolutions actuelles, moi, qui me frappent, parce que quand on a comme ça 1500 personnes devant soi, c'est bien sûr la diversité désormais des origines, et puis la présence des femmes et les témoins dont je parlais, qui sont des gens âgés, qui viennent souvent de province et autres, sont très surpris de se trouver devant ce public-là. Ils ont dans leur tête une autre représentation du gardien de la paix.
Oui, tout à fait. On n'a pas eu le temps de parler de tous les jalons auparavant, mais tout le monde a dans la tête les pères Vange, les dames en bleu qui ont joué un très grand rôle. Vous racontez tout ça. Autrement dit, votre livre est passionnant sur le plan historique et sur le plan sociologique. J'en rappelle le titre, De la sergote à la femme flic, une autre histoire de l'institution policière, et c'est paru à la Découverte Geneviève Prouveau. J'espère que vous allez pouvoir continuer dans cette voie. Je ne sais pas si vous avez l'intention, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression. Alors là, nous tournons la page tout de même. Il faut dire que c'est pas tout de même continu, parce que là, nous allons plonger dans les bagnes et on peut pas accuser la police de toutes les choses que nous allons voir maintenant avec vous, Dominique Khalifa. Alors, Dominique Khalifa, je rappelle que vous êtes professeur à Paris 1, vous dirigez le centre de recherche d'histoire sur le 19e siècle, vous avez succédé à Alain Corbin, et vos travaux, L'encre et le sang, récits de crimes et société à la belle époque, c'était votre premier livre, paru chez Fayard en 95, et puis de nombreux ouvrages, dont Naissance de la police privée.
Avec très peu de femmes chez les détectives privés. Pour quelques filatures jugées difficiles ou pour lesquelles les femmes, pensait-on, seraient moins visibles.
Ah, il y en avait quand même.
Quelques-unes, mais très peu, avec une forte résistance également de ce milieu qui, de toute façon, était le même milieu que celui de la police officielle, puisque la plupart de ces privés venaient de l'institution policière.
Bien entendu. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour votre livre, Biribi, les bagnes coloniaux de l'armée française, qui vient donc de Paris. Être chez Perrin. Alors, Biribi, Dominique Khalifa, qu'est-ce que c'est et évidemment pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet ?
Biribi, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu un non-lieu, j'ai envie de dire. C'est le nom que l'on a donné à la fin du 19e siècle et qui est demeuré au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour tous les camps, les corps, les chantiers disciplinaires de l'armée française installés en Afrique du Nord. C'était un conglomérat de corps extrêmement différents. On y retrouvait les compagnies disciplinaires où on envoyait les fortes têtes, les indisciplinés, les ivrognes. C'était également les bataillons d'Afrique où
l'on envoyait les
soldats qui avaient connu les jeunes conscrits qui avaient connu des condamnations en correctionnel avant leur service militaire. C'était également tous les établissements pénitentiaires de l'armée française, dont les plus terribles, les ateliers de travaux publics installés en Algérie à partir du code de justice militaire de 57. Et puis c'était aussi un corps qu'on connaît très très peu, les exclus de l'armée, c'est-à-dire les jeunes garçons qui avaient, enfin jeunes ou moins jeunes, mais qui avaient connu avant leur service une condamnation en assise et qu'on envoyait lorsqu'ils sortaient de prison avant l'âge limite pour incorporer l'armée dans des corps absolument effroyables. Ce sont vraiment les basses fosses de la répression et de la pénalité militaire qui, pendant longtemps, plus près d'un siècle et demi, ont constitué sans doute la page et l'aspect le plus effrayant, le plus effroyable de cette armée. Et la deuxième partie de votre question, c'est comment, pourquoi? Il y a Darien. D'abord, il y a ce roman et autobiographie fabuleux de ce grand écrivain, je trouve personnellement méconnu, qui est Georges Darien, qui publie en 1890 ce livre très noir mais majeur, Biribi, discipline militaire, tout simplement parce que Darien lui-même a passé 3 années dans une compagnie disciplinaire en Tunisie, à Gafsan, entre 1885 et 1888, et sans doute la lecture de Darien a été importante. Et puis il y a aussi tous ces débats si importants au tournant du siècle sur l'armée, vous savez, à ce moment où le service s'universalise à partir de 1889 et surtout de 1905, tous les jeunes Français vont faire leur service militaire, et donc du coup l'idée que l'on puisse mêler dans les casernes, dans les chambrées, les bons gars venus de la campagne avec un bon sens et une bonne honnêteté avec des voyous, des mauvais garçons, ça c'est quelque chose qui passe pas. Et donc effectivement, cette grande crainte qu'on a au tournant du siècle de mélanger le bon grain et l'ivraie dans ce creuset de la nation qu'est l'armée française, c'est quelque chose que j'avais rencontré très tôt. On parlait des apaches dans l'armée autour de 1905 et qui m'ont donné l'idée effectivement de creuser plus avant sur cette immense institution occultée, mais qui a pourtant, autour de 1900-1905, fait frémir tant de familles. Être envoyé à Biribi, ça, à la belle époque, c'était quelque chose que tous les Français connaissaient, et qu'il est difficile de comprendre finalement pourquoi ça a disparu. Enfin, pourquoi c'est...
Oui, c'est d'autant plus étonnant que, vous, à la fin de votre livre, vous donnez une statistique, vous dites que entre 1830, évidemment, et la fin des années 1960, je crois avoir lu ça, il y a de 600 000 à 800 000 personnes qui sont passés dans les Biribi.
Oui. Alors c'est une estimation un petit peu à la louche, oui. Parce qu'il a été très difficile effectivement de recoller et de recouper tous les chiffres qui sont on connaît les problèmes de la statistique sur une aussi longue période. Mais oui, les envois à Biribi ont été nombreux. Le maximum, c'est entre 1889 et les lendemains de la Première Guerre mondiale. Où environ au moins 10 000 jeunes garçons sont envoyés chaque année dans l'ensemble de ces corps entrants. À la belle époque, c'est autour de 12 à 13 000 envois par an. C'est énorme. Alors, si on compare ça, par exemple, avec un autre chiffre que l'on connaît bien, parce que les travaux sur les bagnes coloniaux, les bagnes civiles ont été nombreux, on sait qu'entre la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, donc entre 1854 et la fin du bagne dans l'immédiat avant Seconde Guerre mondiale, pardon, on a compté environ 100 000 bagnards. Donc c'est 6 à 8 fois plus qui ont transité par les bagnes militaires de l'armée française, ce qui se comprend compte tenu de la nature du service militaire à partir de la République.
Oui, vous êtes tout à fait...
C'est une épreuve qui est une épreuve quantitativement extrêmement nombreuse et qui était aussi une épreuve très, très, très dure, effroyable, une épreuve extrême.
Oui, mais est-ce que vous avez dû avoir des difficultés pour trouver des sources? Parce que puisqu'on cherche à cacher... D'abord, est-ce que l'armée cherchait à cacher? Ou bien, finalement, est-ce que c'était de notoriété publique? Première question. Oui. Et puis la seconde, y a-t-il des sources?
Oui.
Et lesquelles?
L'armée n'a pas cherché à cacher véritablement le phénomène, à tout le moins la face honnête du phénomène, car il y a quelque chose de fondamental autour de Biribi. Ce sont les mauvais traitements, ce sont les sévices, ce sont les tortures même, peut-on dire, qui ont été infligées de façon extrêmement récurrente par un petit nombre, sans doute, de sous-officiers indignes, mais ce sont des choses qui ont été effectives et sur lesquelles j'ai essayé de faire la lumière dans ce livre. Ça, bien sûr, l'institution militaire l'a toujours nié, ou en tout cas, elle s'est toujours réfugiée derrière l'idée « c'était avant, aujourd'hui c'est terminé, ces choses-là ne sont plus... »
C'est fini, c'est toujours l'idée que c'est fini. Oui.
Voilà, on est sorti de ces abus, de ces excès qui appartiennent à l'histoire. Mais au-delà, non, les corps spéciaux de l'armée française, tel était le nom officiel que l'institution donnait à ces diverses unités, les corps spéciaux de l'armée française n'étaient pas particulièrement dissimulés. Ils étaient connus, au contraire, il fallait en montrer, il fallait montrer que c'était quelque chose qui était important pour dissuader les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, de commettre des délits militaires ou de... Et je dois dire que j'ai été bien reçu par les services historiques de la Défense à Vincennes. J'étais pourtant celui qui venait travailler sur les mauvais garçons dans l'armée. J'étais pourtant celui qui venait travailler sur une page qui est pas très glorieuse de l'armée française. Mais je dois dire, et c'est tout à l'honneur de l'institution militaire aujourd'hui, que j'ai été vraiment bien reçu, qu'il y a des documents, il n'y a pas tout bien sûr, beaucoup ont disparu, mais j'ai passé 6 mois non-stop au château de Vincennes à vraiment plonger au cœur de ces archives. Il y a beaucoup de documents, il y a suffisamment pour reconstituer l'histoire sinistre et tragique de ces corps. Il y a encore des documents qu'on retrouve périodiquement. J'ai pas tout exploité, on a par exemple des tas de documents statistiques, quantitatifs, il y a tous les registres d'écrou des établissements pénitentiaires de l'armée française en Afrique du Nord comme ailleurs. Il y a tous les registres de contrôle des troupes qui permettraient d'aller beaucoup plus loin que je ne l'ai fait dans une sociologie très fine de ces milliers de soldats. Il y a véritablement à Vincennes toutes les sources pour faire cette histoire et aller plus loin. Et je dois dire vraiment que l'armée ici m'a mis aucun bâton dans les roues. Au contraire, ils m'ont vraiment très bien reçu. Ils m'ont permis de faire ce livre.
Autrement dit, il y a des changements positifs dans la police et comme dans l'armée vis-à-vis de leur propre histoire. Ouais. Ça, c'est C'est quand même quelque chose de très, 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 très important. Alors, ceci dit, pour les sources, vous faites remarquer à plusieurs reprises que on peut pas se plaindre. Les plaintes contre torture, par exemple.
Oui,
il y a quelques procès, mais c'est très, très difficile.
La représentation majeure qu'on avait, parce que Darien la donne, parce que d'autres la donnent, parce que Albert Londres, dans la grande enquête qu'il mène en 1924 sur Biribi, le montre, c'est que Biribi, c'est le lieu des tortures, c'est le lieu. Alors, il y a des choses qui sont extrêmement célèbres. La Crapaudine, par exemple, qui est un des symboles de cette répression militaire.
Qu'est-ce que c'était exactement? La Crapaudine, c'était
une façon de lier les mains et les pieds du détenu dans le dos, hein, et de le mettre en fait dans la position du crapaud, et soit de le monter effectivement sur une perche, soit de le laisser dehors le jour en plein soleil sous le soleil du désert, et la nuit dans le froid et le gel qui est la caractéristique de ce climat, mais aussi beaucoup d'autres, bien sûr la faim, les coup, le sadisme dément de certains sous-officiers. Bon, ça c'est quelque chose qui véritablement est extrêmement présent dans tous les témoignages. Nié par l'armée, j'ai voulu tenter effectivement de pouvoir au moins évoquer l'effectivité de ces pratiques. Et là, effectivement, on n'a pas beaucoup de sources parce mais c'est la même réalité. Oui. Pour la prison, les historiens du carcéral savent très bien ça. On ne porte pas plainte lorsqu'on est un détenu, parce qu'on sait très bien que la chose va se retourner
contre vous.
On évoquait Albert Londres tout à l'heure. Au sortir de la grande enquête qu'Albert Londres fait dans le Petit Parisien,
en 1924,
et qui aboutit à son livre « Dante n'avait rien vu Biribi », beaucoup de détenus des établissements pénitentiaires de l'armée vont écrire à Londres. Les archives d'Albert Londres, qui sont conservées aux archives nationales,
ont conservé
des lettres. Il y a une soixantaine, il y a un peu plus, 80 lettres envoyées par des détenus d'ateliers de travaux publics ou de pénitenciers à Albert Londres. Et la plupart de ces détenus disent à Londres, surtout, ne mentionnez pas mon nom.
Bah oui.
Surtout, ne dites pas que je vous ai écrit, parce que ça va aussitôt se retourner contre moi. Et les quelques procès, il y a eu des procès pendant le siècle et demi de cette histoire de Biribi. Il y a eu des procès, bien sûr, et des affaires retentissantes, comme la grande affaire Ernoux Rousset autour de 1910.
Qu'est-ce que c'est cette affaire?
Ça, c'est une affaire terrifiante.
Pouvez-vous
une affaire
dire
énorme qu'on a complètement oubliée, qui a vraiment été occultée. Ernoux était un syndicaliste qui avait tâté un peu de prison, comme beaucoup de syndicalistes, donc il se retrouve, ayant fait de la prison, avant son service militaire au bataillon d'Afrique, il se retrouve ensuite dans la section de discipline du bataillon d'Afrique, où il est littéralement assassiné par des sous-officiers. Ça, c'est assez fréquent, des détenus qui meurent. Le problème, c'est que là, il y a un autre détenu qui s'appelle Rousset, qui va parler, qui va écrire à la Ligue des droits de l'homme, qui va écrire aux journaux, au Matin notamment, et qui va effectivement, avec les autres détenus, porter l'affaire en place publique. Tout le milieu révolutionnaire, antimilitariste, anarcho-syndicaliste, si puissant autour de 1910, va monter cette affaire et effectivement en faire une grande cause nationale. À tel point que l'ensemble du dreyfusisme, qui est encore triomphant et au pouvoir à cette époque, va finalement prendre position pour Arnoux, pour Rousset, surtout parce que le bon Rousset, qui avait témoigné pour dénoncer l'assassinat d'Arnoux, est lui-même condamné à 20 ans de travaux forcés pour le faire taire. C'est un crime judiciaire. L'affaire Dreyfus, les ouvriers vont dire effectivement les anarcho-syndicalistes.
C'est étonnant qu'on ne la connaisse plus.
Et ça a été une très grande affaire qui a suscité des manifestations monstres et l'engagement in fine et heureusement de l'ensemble du dreyfusisme qui a réussi à faire rapatrier le corps d'Arnoux, ce qu'on demandait, et surtout à sauver Rousset, un innocent qui était complètement pris dans la machinerie des conseils de guerre et de la justice militaire.
Oui, ce que vous dites à propos de cette affaire montre au passage qu'il y avait quand même des réactions contre ça, quand même. Dans l'époque 1900-1914, il y a quand même des gens qui se battaient.
Il y a un moment, on évoquait Darien tout à l'heure, 1890, j'évoquais de l'autre côté Albert Londres, 1924, je crois qu'entre 1800, même si l'affaire de Biribi est beaucoup plus longue, s'il commence en fait au lendemain de la Révolution française et qu'elle ne se termine qu'avec la décolonisation, mais il y a une phase centrale qui est celle de ces années, de ces 30-40 années de part et d'autre du début du XXe siècle, pendant lequel effectivement Biribi devient vraiment une cause nationale. pour lequel beaucoup de gens vont se battre. Bien sûr, les antimilitaristes, bien sûr, les militants révolutionnaires. Il y a Darien, mais il y en a beaucoup d'autres. Charles Tillon, plus tard, beaucoup d'autres. Mais aussi les journalistes. On évoquait Albert Londres. Il y a eu, avant Albert Londres, il y a eu Jacques Dure, qui est
oui,
un grand journaliste
beaucoup,
de, la, de la Belle Époque. Le
très,
premier
très
a,
oui.
a consacré un reportage extrêmement, extrêmement important en 1906 sur Biribi. Il y aura d'autres journalistes. Et puis aussi, bien sûr, des hommes politiques. Et je dois le dire aussi, à l'intérieur de l'armée, des officiers supérieurs dignes et tout à fait, et porteurs de cette armée nouvelle que je reste revendiquée, que malheureusement Biribi n'incarne pas, et qui ont fait aussi beaucoup d'efforts pour transformer de l'intérieur le statut. Il y a des réformes, mais qui peinent à durer. Et je crois qu'au bout du compte, ce phénomène est tellement lié à la colonie, à l'Afrique du Nord, à la violence coloniale, au non-droit colonial.
Oui. Vous insistez beaucoup là-dessus. Vous dites que Biribi, enfin la formule, c'était Biribi, c'est l'Afrique.
Biribi, c'est en Afrique. Ça, c'est Bruyant. Dans la chanson d'Aristide Bruyant à Biribi, il y a ce mot, bah, Biribi, c'est en Afrique.
Oui.
Avec l'idée, effectivement, que quelque chose est possible en termes de violence dans l'espace colonial qui ne serait pas possible en France. Et il est vrai, effectivement, que l'expérience africaine, que l'expérience de la violence, effectivement, qui commence d'une certaine manière avec la conquête de l'Afrique du Nord par l'armée française dont on sait comment elle se comporte et qui se termine avec la guerre d'Algérie.
Oui.
J'avais l'idée, d'une certaine manière, autour de ce travail, que quelque chose de la violence militaire qui a été celle des guerres d'Algérie de 1830 à 1962 pouvait se lire très clairement dans le traitement que l'armée française réservait à ses propres enfants, à ses propres soldats sur la terre africaine. Alors si on pouvait faire ça, si on pouvait se permettre un tel débordement de violence, d'ultra-violence à l'égard des soldats français, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec les indigènes, avec les autres, hein?
Absolument, absolument, oui. Et oui, ça c'est un des grands aspects de votre livre, ça fait prendre conscience de quantité de choses, bien sûr. Est-il besoin de préciser qu'il s'agit de l'Afrique du Nord?
Oui, oui, hein. Tous ces
camps disciplinaires... D'ailleurs, vous donnez des cartes des emplacements, d'ailleurs, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, en même temps c'était des emplacements mobiles, puisque la nature de Biribi, c'était de faire travailler les détenus ou les disciplinaires à des travaux de mise en valeur coloniale, pas toujours d'ailleurs très utiles, mais enfin, ils ont souvent beaucoup plus cassé du caillou que fait des chantiers.
Oui,
mais
oui.
Du coup, autour d'une portion centrale, il y avait en quelque sorte un archipel pénitentiaire qui s'éparpillait en des dizaines, des centaines de camps mobiles dans lesquels, bien sûr, des tentes, des marabouts de 20, 30, 40 détenus, dans lesquels, évidemment, aucun contrôle ne pouvait se faire, sur les conditions de salubrité, mais aussi, bien sûr, sur la question des violences et de l'arbitraire du traitement de ces hommes.
Oui.
En Algérie d'abord, puis en Tunisie, puis au Maroc, hein, en suivant d'une certaine manière l'avancée de la
avec des noms célèbres, évidemment, comme Tataouine.
Oui, Tataouine a été le dernier, d'une certaine manière, la dernière implantation des bataillons d'Afrique jusqu'à la fin des années 50.
Oui, alors, les hommes qui sont passés là, vous essayez d'en dresser un portrait sociologique, bien que ce soit pas très facile, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous dites que c'était pas forcément des tout jeunes.
Non. Hein? Au début, ce sont essentiellement des engagés au départ. Ce n'est que plus tardivement que ça devient des appelés en lien avec la structure de l'armée française. Au départ, c'était surtout des fortes têtes, des indisciplinés, ceux qui, au bout de quelques années, commençaient un peu à ruer dans les brancards de la discipline militaire, qui buvaient. Ce qu'il faut dire, on n'a pas dit ça, je crois que c'est un point important, c'est que c'est un système qui a en permanence fonctionné sur le principe de la double peine.
Oui, c'est ça.
De la double peine, c'est-à-dire qu'on punissait, en envoyant à Biribi, des hommes qui avaient déjà été punis. Comme si finalement, soit parce qu'ils avaient été punis au civil, soit parce qu'ils avaient été punis par les conseils de guerre, soit parce qu'ils avaient subi trop de punitions. Mais c'est, tout fonctionne vraiment sur le système de la double peine, avec l'idée qu'au bout du compte, ce qui est en jeu, c'est la relégation, c'est l'expulsion, c'est d'une certaine manière l'élimination.
Oui, c'est ça, c'est l'élimination. Et ce que vous montrez très bien, c'est le système, justement, qui exclut toujours plus loin.
Oui.
Et on va pas énumérer toutes les institutions créées, il y en a eu beaucoup, mais à chaque fois, c'est pour créer un échelon inférieur.
Voilà, pour envoyer les incorrigibles, des incorrigibles, des incorrigibles.
Les incorrigibles,
jusqu'à, au bout du compte, perdre ces hommes dans ce qu'un militant a appelé les cercles de la répression militaire en s'enfonçant de plus dans vraiment les bas-fonds de ce qu'a été la répression de l'armée.
Et encore, Dante n'avait pas tout vu.
Oui.
Le cercle de l'enfer. Dominique Khalifa, en quelques mots, comment ça s'est achevé? Quand même, Biribi, c'est fini.
Oui, Biribi, c'est fini.
Rassurez-nous.
Encore qu'en 1972, on a le Nouvel Observateur et toute une campagne a montré qu'au fort d'Eton, en Savoie, il demeurait un petit nombre de disciplinaires qui s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs des joyeux et qui se disaient à Biribi. C'est Biribi pas mort, titre le Nouvel Obs en 1972, parce qu'effectivement, il y avait encore ce qu'on appelait une section spéciale métropolitaine qui avait commencé en Algérie à Tinfouchi pour envoyer certains appelés réfractaires à la guerre d'Algérie et dans laquelle on envoie jusqu'au début des années 70 des mauvais sujets de l'armée. Ils sont très peu nombreux à ce moment-là. Quand Biribi se termine-t-il? Il y a d'abord les lendemains de l'affaire Londres et le code de justice militaire promulgué en 1928 qui supprime les ateliers de travaux publics, c'est important. Et puis ensuite, il y a une lente agonie de tous ces corps, même si effectivement, il faut attendre in fine la décolonisation et la fin de la guerre d'Algérie pour que les derniers vestiges de ces corps disparaissent véritablement. Le lien avec la colonisation et l'aventure coloniale, si je peux me permettre ce terme pas très heureux d'aventure, est vraiment décisif.
Oui, c'est tout à fait décisif. Jean-Marc Berlier, vous vouliez dire...
Je suis terrifié, bien évidemment, par tout ce que Dominique Khalifa nous a mis au jour, mais il me revient à chaque fois qu'il s'agisse des bagnes civiles ou des bagnes militaires qu'on connaissait beaucoup moins bien. Ce qu'on a toujours oublié, c'est que cette Troisième République, dans sa partie répressive épouvantable, a servi de modèle, et ils ne s'en sont jamais cachés, aux nazis pour leur univers concentrationnaire. L'idée de faire garder des gens par des gens encore plus abjects qu'eux, etc. Je suis toujours frappé par cet oubli que l'on a, ce trou de mémoire à l'égard de nos responsabilités morales. Puis j'ajouterais que finalement, on n'est pas si éloigné du début de notre sujet, parce que les gens qui sont passés par cet enfer reviennent dans des conditions morales ou autres qui fait qu'on les retrouve très souvent dans des milieux qui sont justement antisociaux.
C'est dire l'importance de votre livre, Dominique Khalifa, dont je rappelle le titre, Biribi, les bagnes coloniaux de l'armée française, Paris, Perrin, 2009. Et nous étions avec Geneviève Pruvot pour son livre De la sergote à la femme flic, paru à La Découverte, et qui est vraiment un livre pionnier sur la féminisation de la police, et Jean-Marc Berlier pour l'ensemble de son œuvre, son initiative dans tout ce domaine, et le livre collectif Métier de police, être policier en Europe, 18e-20e siècle. Je vous remercie beaucoup de votre participation à cette émission et j'espère que tous les travaux dont vous avez parlé vont continuer, que le chantier est toujours ouvert. Les Lundis de l'Histoire vous étaient présentés par Michel Perrault, équipe de réalisation Annabelle Brouard et Fabien Capel. Au revoir.
C'était Les Lundis de l'Histoire par Michel Perrault, une émission réalisée par Annabelle Brouard et diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 avril 2009. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.